Nous voici dans l'histoire de France.
Et pas seulement dans l'histoire de France.
Le curé Duruf, prêtre indigne.
Dans son réquisitoire, l'avocat général Borel, qui demande la peine de mort, prononce ces mots terribles. Il a trompé Dieu qu'il avait choisi comme maître et a trompé ceux à qui il avait mission d'enseigner la pureté et le devoir. Vous avez le devoir de balayer toute cette boue, de tout purifier.
C'était un autre temps, décembre 1956. Moscou venait de mater la révolution de Budapest. En un mois, 110 000 Hongrois qui s'étaient jetés sur les routes et dans les trains venaient d'entrer en Autriche, qui leur avait ouverte grande ses frontières. Et en France, nul catholique ne se demandait s'il était opportun ou non d'aider ces réfugiés. Dans toutes les paroisses, on collectait de l'argent, des vêtements pour les victimes d'un régime totalitaire. C'était un temps plein pour l'Église. Elle pouvait distribuer ses prêtres dans le moindre village. Ainsi, Uruf, en Lorraine, 400 habitants seulement, avait son curé, dynamique qui plus est. La soutane n'empêchait pas Guy Desnoyers, un solide gaillard de 36 ans, de jouer au foot. Il la relevait aussi pour d'autres occasions. Un homme reste un homme. L'opinion n'en était pas plus émue que cela au village. Mais voilà que ce mois de décembre 1956, les Français de toute la France apprennent que le curé Duruf, non seulement vient de tuer une jeune fille de 20 ans, mais qu'il l'a éventrée pour en extraire l'enfant de 8 mois qu'il avait d'elle. Il avait ensuite défiguré l'enfant afin qu'on ne reconnût pas ses propres traits sur le visage à venir. Un prêtre restant un prêtre, il l'avait préalablement baptisé. Soudain, les catholiques faillirent perdre leur bonne conscience quand, au criminel est lié le sacramentel, la monstruosité devient insoutenable.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
L'affaire Duruf a inspiré nombre d'écrivains, Jouhandeau, Claude Lanzmann, un auteur de théâtre, Roger Planchon. Et vous aussi, pour votre premier roman, depuis vous êtes devenu un grand théologien, patron des éditions du CERF, professeur à l'Institut Saint-Serge, parce que vous êtes orthodoxe à Paris. Ce livre s'appelait « Le jour de la colère de Dieu », il était édité par Lattès. Au fond, c'était un peu une réponse aux interlocuteurs, tel Lanzmann, on l'entendait pas de chair tout à l'heure,
bien sûr,
qui parlait de l'affaire Duruf.
Bien sûr, Claude Lanzmann, Jouhandeau, Claude Lanzmann, c'est raison d'église, n'est-ce pas? Lanzmann, à ce moment-là, travaille pour les temps modernes et il va décrypter l'inconscient religieux qui, selon lui, est à l'œuvre, alors que Jouhandeau, lui, est beaucoup plus sur le fait divers. Il y a l'intérêt, finalement, catholique pour l'abîme de l'âme, n'est-ce pas? Bon. Alors, évidemment, il y a cette France que vous avez parfaitement décrite de ces années-là, et il y a ce crime abominable qui, lui, n'entre dans aucun temps, aucun espace. Pour moi, la question, c'était de savoir, y a-t-il une rédemption possible, à la fois pour le curé Duruf, mais y a-t-il simplement aussi une rédemption possible après le curé Duruf? Qu'est-ce que l'humanité peut faire de tels crimes qui, effectivement, sont à la jointure de ce qu'il y a de plus sacré et de plus innommable?
Alors, je vois que vous allez dresser un panorama depuis le haut point de vue des fins dernières. Vous me permettez que nous continuions quand même. Vous remontez votre pente à descendre la nôtre, celle de l'histoire. Cependant, il faut qu'on dise que le curé Duruf, on va dévoiler la fin tout de suite, n'a pas été exécuté comme il est présenté dans le film de Philippe Ramos. On voit la tête qui roule dans le panier et qui se met à parler, ça va être une voix off dans le film. Non, il a vécu une vingtaine d'années discrètement en prison et puis ensuite une vingtaine d'années en abbaye, dans un couvent, un monastère, plusieurs monastères. C'est d'ailleurs là que vous situez votre livre.
Près de Plouarnel, dans le Morbihan, non loin des célèbres alignements de Carnac, l'abbaye Sainte-Anne de Kerguenan a été fondée en 1897 par des moines bénédictins envoyés de Solesmes pour former un nouveau centre de prière. Fidèles à la règle de Saint-Benoît, les moines de Kerguenan prient, travaillent, prient. travail intellectuel consacré aux sciences ecclésiastiques, travail manuel aussi selon les capacités de chacun et les besoins de la communauté, l'un et l'autre obéissant au rythme régulier, immuable de la prière.
Le narrateur de votre livre, c'est un ancien novice qui, quand il songeait à entrer au monastère, qu'il y vivait déjà, se posait sans cesse la question, mais il y a le curé du Ruf qui est là.
Voilà. Parce qu'effectivement, le curé du Ruf, comme vous l'avez très bien dit, n'est pas condamné à la peine capitale. Il est condamné aux travaux forcés. Il va devenir le plus vieux prisonnier de France. Il va être transbahuté de prison en prison où personne ne veut lui parler. Il vit déjà dans une forme de solitude à laquelle l'a condamné le caractère abominable de son crime, monstrueux. Mais le voilà qui est libéré. Libéré, mais libéré, non. Il ne va pas vers le monde. Il continue cette forme de réclusion qui devient à ce moment-là volontaire, n'est-ce pas ? Il y a les grilles du monastère. Passer les grilles du monastère, c'est se couper du monde. Il s'est en quelque sorte coupé du monde et il rejoint un monastère, lui, ce prêtre assassin. Vous voyez ? Donc il y a là une dimension effectivement radicalement métaphysique, au sens où depuis Dostoïevski, on sait que ce sont les faits divers qui porte dans notre monde contemporain la métaphysique et la mystique.
Je reconnais les faits, écrit-il, mais les causes, je ne peux les expliquer. Alors, permettez-moi de revenir à la sociologie du clergé. Voilà un homme de condition modeste. Il est mûri au séminaire comme une future recrue pour l'Église. Il lui manque pas la sincérité, pas l'élan. Il lui manque peut-être la connaissance, la distance.
Monde un peu oublié, effectivement. Ce monde qui est héritier de la bataille des deux Frances au XVIIIe siècle. La France catholique d'un côté, républicaine de l'autre. Un catholicisme très sociologique, vous l'avez dit. Hein, il y a quoi, 400, 500 âmes dans ce village. Et il y a un prêtre, ça serait inimaginable aujourd'hui. Ce qui veut dire que donc on est dans ce recrutement des campagnes. Le sixième garçon, le septième, le huitième, dont on ne sait pas quoi faire. Bon, bien les bons pères vont s'occuper de lui. Ça a donné parfois des réussites extraordinaires, d'ailleurs, de jeunes Ardéchois qui se sont retrouvés à décrypter des manuscrits du haut vietnamien au fin fond de l'Asie. Non, là, c'est une histoire infiniment plus triste. On est aussi dans l'après-guerre. Il est très marqué par un christianisme de l'action. Il veut, en fait, il mène une troupe de théâtre, faire du football.
C'est à certains égards un chrétien social, oui. Un prêtre sociable. Oui. C'est la soutane retroussée pour jouer, vous le disiez, au foot. Encore Frédéric Potcher. Frédéric Potcher a raconté l'histoire beaucoup plus tard, en 1990, pour les seuls auditeurs de Radio France Belfort-Montbéliard. Le voici maintenant avec une audience méritée, plus large.
Méritée, certes.
L'abbé Desnoyers, actif, sportif, va réveiller, dit-il, le village. En effet, il organise des sorties, des excursions. À Uruf, on fait du théâtre, un peu moins de catéchisme, mais personne ne s'en plaint. Les jeunes, en fin de semaine, ont des distractions bien acceptées. Les sorties sous la direction de ce jeune abbé plein d'allant et qui sait se faire aimer sont très attendues.
Attention, messieurs!
Montez.
Au plaisir du ballon rond rencontré sur le terrain du club de football que je venais de fonder, allait répondre une grande efficacité évangélique.
La vie est moins monotone à Uruf. On ne s'ennuie pas pourvu que cela dure, dit le maire, et cela durera un peu plus de 5 ans. Bien sûr, des bruits fâcheux circulent quant à sa conduite sur des attitudes équivoques de certaines filles. On dit que l'abbé n'y est pas pour rien.
À la voix de Potcher, on a mêlé celle de Melville Poupeau. Je parlais de la voix off du film.
Bien sûr.
De Philippe Ramos. C'est lui l'interprète du curé du Ruf, dont vous diriez, Jean-François Colissimo, vous qui enseignez dans une fac de théologie, qu'il faudrait peut-être plus de contemplation dans une vie surmenée. Qu'à la limite, bon, peut-être il faut faire l'amour quand on est prêtre, mais enfin, peut-être dans un lit un peu longuement et pas à la va-vite.
Le problème, la fatalité de ce curé, c'est qu'il est tout sauf curé. Il accomplit toutes les choses, n'est-ce pas, qui relèvent du sacerdoce, de la pastorale. Mais il lui manque l'essentiel, c'est-à-dire la vie intérieure, la prière, la contemplation, la raison de sa vocation. n'est-ce pas? Et dans vocation, il y a la voix, l'appel, n'est-ce pas? Il y a une forme de désert de Dieu dans cette âme. C'est ça, le véritable point. Donc, il est seul, il est jeté seul dans ce monde, et dans ce monde, pris d'une frénésie d'action pour remplir ce vide intérieur, eh bien, lui qui aime, c'est vrai, eh bien, il va beaucoup aimer, il va aimer beaucoup de femmes, il va y prendre goût, et puis ça va devenir compulsif, parce que cette libido, eh bien, elle lui sert de raison d'être.
Michel, Madeleine, à Reon, à Blamont, où il a été vicaire, et puis d'autres encore, à Uruf, où il arrive en 1950, à tel point que...
Une aventure sentimentale s'engage avec la femme de ménage de l'église, qui est aussi celle du presbytère. Lorsque l'on s'aperçoit qu'elle est enceinte, la rumeur trouve très vite le nom du père, l'abbé Desnoyers. Il emmène sa complice à Rodez, où elle accouchera chez des amis. Mais l'histoire est parvenue aux oreilles de son évêque qui le convoque. L'entrevue est tendue, mais la foi et la sincérité du pêcheur font apparemment merveille et l'évêque ne sévit pas.
Attention, que rien ne tombe entre les mains de la hiérarchie. Cette hiérarchie catholique n'est formée que d'esprits boursouflés et prétentieux. Ils ne savent pas. Ils ne soupçonnent pas l'importance d'une partie de ballon. Ils ne savent rien de la vie.
Le curé d'Uruf a donné la possibilité à beaucoup d'imagination de se développer. Ça, c'est Roger Planchon dans l'infâme, sa pièce, qui pense que le curé d'Uruf agit loin de sa hiérarchie, peut-être. L'évêque, Monseigneur Lallier, il a la préoccupation de faire fonctionner l'Église selon son ordre, avec ses juridictions, dans la discrétion et dans l'autonomie. Et à l'époque, il n'y a pas un évêque qui pense qu'il faut aller signaler des affaires de ce genre aux autorités civiles.
Dans ce cas précis, d'ailleurs, il n'y a pas de délit, n'est-ce pas ? Dans ce cas précis, lorsque l'évêque est alerté, c'est simplement un prêtre qui se conduit mal. Il n'y a pas d'action répréhensible qui tombe sous le coup de la loi, puisqu'il a vécu une relation avec une jeune fille qui est effectivement consentante. Il est menteur, il se dérobe à son sacerdoce, mais il n'a pas commis de crime. En revanche, il ment. Et il arrive à convaincre l'évêque de sa sincérité. Est-ce que c'est parce qu'il est un bon comédien ? Non, il est sincère. On est affaire à un homme dissocié. En fait, ce prêtre est un homme contemporain total. Et c'est ce que voit bien Lanzmann. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Évidemment, la presse de gauche hurle qu'il faut le décapiter. Mais la presse de droite est d'accord pour le décapiter. C'est l'Église qui n'est pas d'accord.
Alors, parce on va que en venir tout à l'heure, si vous voulez bien.
L'Église considère que c'est toujours un prêtre.
On va en venir tout à l'heure.
Et que ce titre-là lui appartient.
Alors, aujourd'hui, on va en venir tout à l'heure au procès et aux réactions de l'Église, mais quand même, j'insiste au regard d'aujourd'hui, Jean-François Colissimo.
Oui.
Il n'est plus pensable aujourd'hui que l'Église ait ses structures de juridiction propres qui puissent isoler des prêtres comme lui.
Mais je dirais que, à l'époque, cher Jean Lebrun, tout au contraire, si vous regardez l'époque, à l'époque, il y a une forme de consensus moral qui faisait aussi qu'on comptait sur l'État et sur l'Église pour assurer la moralité. Et que cette moralité, elle pouvait pas supporter, en quelque sorte, d'être remise en cause. Et qu'il y avait donc une forme, entre les pouvoirs publics et les pouvoirs religieux, une forme d'alliance non dite pour qu'il n'y ait pas scandale, puisque le scandale paraissait un plus grand mal encore que le mal commis. Aujourd'hui, dans une société infiniment plus transparente, il est évident que d'ailleurs, et l'Église ne s'en tient pas là, et dans des cas et des crimes réels, avérés et beaucoup plus graves, l'Église, aujourd'hui, à la demande d'ailleurs insistante de Benoît XVI, il faut le dire, est radicalement du côté de la victime.
Puis du pape François qui dit « signaler aux autorités, aux
absolument.
Évêques, quand il y a des victimes
François, là, s'inscrit dans
possibles
la... ». Voilà, donc on a changé d'époque, vous avez raison.
On a changé d'époque.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur mon brin de laurier. Je dormais comme un loir, les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Le ciel en soit loué, Je vis en bonne entente avec le père Duval, la calotte chantante, lui le catéchumène, et moi l'énergumène. Il me laisse dire merde, je lui laisse dire amen. En accord avec lui, dois-je écrire dans la presse qu'un soir je l'ai surpris aux genoux de ma maîtresse, chantant la mélopée d'une voix qui susurre, tandis qu'elle lui cherchait des poux dans la tonsure. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché.
Ah, il est possible que cette chanson de Brassens, au nom de l'union du pouvoir civil et du pouvoir ecclésiastique que vous signaliez tout à l'heure, Jean-François Colissimo, ait été peu recommandé à la Radio Nationale. Il est vrai que ce malheureux père Duval, rappelons aux auditeurs qui il était, c'était une vedette du monde catholique. Bon, il était peut-être un peu alcoolique ou il passait pour tel, mais il n'avait pas la réputation que lui donne Brassens dans les trompettes de la renommée. En même temps, cette réputation-là, les villages y étaient habitués, la femme du prêtre, c'était un personnage. Quand le curé du Ruf rend enceinte Régine, une jeune ouvrière de 19-20 ans, sa mère dit « on va pas en faire un drame ».
Mais moi, je ne veux pas non plus choquer et sembler tout à fait indifférent à tout ça. La véritable question du curé du Ruf, qu'il y ait un curé, un homme dit de Dieu, consacré, etc., quelle que soit la confession, la religion, etc., qui, faute, manque à sa promesse, trouve une femme, et même a des enfants avec elle, et même finit par la tuer. Et le meurtre est parfois l'aboutissement de la passion. Tout cela n'a rien d'exceptionnel. N'est-ce pas? Je suis désolé de le dire. Enfin, en tout cas, ça mérite pas qu'on y passe des heures et des heures de commentaires. C'est de la faillite humaine qui n'appelle pas de surnaturel, qui n'appelle pas le diable, qui n'appelle pas la possession, qui n'appelle pas quelque chose qui nous dérange fondamentalement. Qu'est-ce qui se passe avec le curé du Ruf? C'est qu'il tue en tant que prêtre.
Et que les circonstances du drame sont inouïes, elles ont été ressenties comme telles en février 1956, et dans la voix de Frédéric Potcher en 90, on en entend encore l'écho. Il est avec sa deux chevaux, bien sûr, avec sa maîtresse, il s'arrête au pied d'une mare, dit Potcher, au pied d'un bosquet peut-être, et il commet l'irréparable.
L'abbé Desnoyers, étant le premier à avoir découvert les corps, est interrogé le premier. Les gendarmes sont au courant, comme tout le monde à Uruf, des bruits qui circulent au sujet du prêtre. L'abbé nie farouchement, parle de calomnie, et voilà que tout à coup, l'adjudant-chef de gendarmerie trouve dans l'herbe une douille de 6,35. L'adjudant-chef se souvient alors que Desnoyers avait, il y a quelque temps, demander un port d'armes pour un 6,35, justement, sûr de tenir le coupable. L'adjudant-chef se fait plus insistant et Desnoyers avoue.
J'essayais de comprendre, mais tout se bousculait dans ma tête. Et ce matin, au réveil, les images de la nuit réapparues. Étranges, irréelles, son ventre ouvert. Et cette chose, cette maudite chose, qu'il m'avait fallu extraire, baptiser, tué, défiguré.
Il est tellement prêtre, pendant le meurtre, qu'il baptise le bébé de 8 mois. C'est ça qui est inouï.
Alors, il y a une raison théologique que Benoît XVI a levée depuis d'ailleurs, à savoir que les enfants morts sans baptême vont dans les limbes et n'ont pas accès au paradis. C'est une zone, en quelque sorte, grise de l'éternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe, c'est que ce Desnoyers, quittons maintenant le catholicisme, quittons la France des années 50, allons à l'essentiel, à l'anthropologie, c'est-à-dire au sacrifice, c'est-à-dire au règne du sang sur la terre depuis qu'il y a une humanité et que même cette humanité en est venue à faire des sacrifices humains, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, c'est très simple, il est le géniteur dans ce monde, si, n'est-ce pas? Dans le monde du temps et de l'espace. Et il supprime l'enfant, mais il veut que l'enfant vive dans l'éternité. Ce rapport entre la vie ici-bas et la vie dans l'au-delà, d'être maître de l'un et de l'autre, eh bien ça, c'est les totalitarismes. C'est-à-dire, c'est ce que disaient les nazis, nuit et brouillard. C'est ce que disaient les gardiens du goulag, à conserver pour l'éternité, mettait-il, n'est-ce pas, sur les dossiers. Et c'est ce que disaient les Khmers rouges. Jusqu'après ta mort, l'organisation continue de surveiller.
Alors ce rapprochement, alors, il est
ce
intéressant.
Ce délire-là, c'est ça qui, je crois, pose la question de Desnoyers. Desnoyers, c'est un petit événement dans la France, au milieu du siècle, quelque part en Lorraine, mais ça s'assimile finalement au suicide de Dieu au XXe siècle, ou ce qui paraît être le suicide de Dieu. C'est cette chose terrible d'Adorno, plus de poèmes après Auschwitz. George Steiner, si le Messie vient, on lui dira « c'est trop tard pour toi ». Ça pose la question du mal radical. C'est pas une question de nombre.
Ce rapprochement, Claude Lanzmann l'a fait.
Bien sûr.
Il écrit sur le curé du Ruf en 58, peu d'années après les faits. Il fait son film Shoah. Il apporte les cassettes de Shoah au cardinal Lustiger. Il voit, quand il va à l'archevêché de Paris, les cassettes entassées sur un canapé. Lustiger lui dit « Moi, j'arrive pas à voir plus d'une minute de ce film ». Alors, il lui donne un exemplaire de son article de 1958 publié bien plus tôt. Et le cardinal lui répond « Moi, j'arrive pas à lire cela ».
Le cardinal, qui d'une part, on le sait, a eu une partie de sa famille exterminée durant la Shoah. Le cardinal qui est prêtre parmi les prêtres, n'est-ce pas, et qui ordonne des prêtres. On a là, dans cette double distance, quelque chose de très vrai, à savoir l'unité sous-jacente à l'horreur, n'est-ce pas ? Alors évidemment, ensuite il y a des événements de l'histoire, et puis là on est face à un fait divers. Mais finalement, la même question nous est posée, n'est-ce pas ? C'est pourquoi l'homme se révèle-t-il, in fine, au prétexte de l'amour, pourquoi l'homme se révèle-t-il cannibale ? Est-ce que il y a un amour possible qui serait libre de l'empreinte de la mort? Voilà, c'est ça la question à laquelle renvoie Desnoyers, d'une façon malheureusement abyssale.
Alors vous renvoyez, Jean-François Colissimo, à la réflexion théologique. À Nancy, il n'y a plus d'évêque, Monseigneur Lallier, qui s'occupait du curé du Ruf, a été nommé ailleurs. Le nouveau n'est pas arrivé. L'évêché pond un communiqué bien embarrassé.
L'opinion publique aura été frappée par l'annonce du terrible crime qui vient de survenir dans une paroisse de notre diocèse. Un tel acte est incompréhensible par sa monstruosité même. Il appartient désormais à la justice humaine de suivre son cours. Nous partageons la douleur de cette famille si affreusement éprouvée, et au plus profond de notre cœur, nous ressentons, en présence d'un forfait commis par l'un des nôtres, une humiliation déchirante. Devant des actes qui dépassent l'imagination humaine, les chrétiens, cependant, ne sont pas démunis. Il nous reste devant Dieu et devant les hommes le réconfort d'une prière confiante pour la victime et notre propre expiation pour le coupable.
Alors, la prière d'expiation, quand le procès va ouvrir en janvier 1958, un peu partout en France, et d'abord à la cathédrale de Nancy, sont organisées des cérémonies d'expiation.
Oui. Ce qui veut dire, je crois qu'il y a ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'Église, vous voyez, c'est ce que racontait le Figaro à l'époque. Le Figaro disait, c'est une branche pourrie, il faut la couper, se dénoyer, c'est rien du tout.
D'ailleurs, le Figaro ne disait pas le curé du Ruf, le Figaro disait l'assassin du Ruf.
L'assassin du Ruf, n'est-ce pas ? Le Figaro disait, mais c'est pas pour dire, disait, voilà, alors ça c'est la logique humaine en quelque sorte, bon, le dénoyé ne représente que lui-même, c'est quelqu'un dont on s'en débarrasse, et puis, il n'aurait jamais dû exister. Mais ce n'est pas ce que dit l'Église. L'Église, elle dit, c'est un des nôtres. Il va falloir expier, c'est-à-dire il y a une forme de dimension collective de la faute qui est acceptée. Pourquoi ? Parce qu'il est réellement prêtre aussi. Et je crois qu'il y a là quand même un sursaut d'humanité humilié, hein, c'est le terme, ils disent humiliation, n'est-ce pas ? Il y a un sursaut d'humanité humiliée, parce que c'est une humiliation évidemment pour l'Église, mais l'Église, elle va jusqu'au bout, elle se contente pas d'une logique
oui.
humaine dans cette affaire.
Néanmoins, Jean-François Colosimo, l'Église va essayer de limiter les dégâts. Alors je sais, il arrive au tribunal en serrant un crucifix entre les mains, mais le président doit être assez proche des milieux catholiques pour expédier en deux journées de 5 heures seulement le procès, et en faisant le minimum vital. Frédéric Potcher n'a pas rendu compte du procès à la radio. Il a le droit de le faire beaucoup plus tard.
Dans son réquisitoire, l'avocat général Borel, qui demande la peine de mort, prononce ces mots terribles. Il a trompé Dieu qu'il avait choisi comme maître et a trompé ceux à qui il avait mission d'enseigner la pureté et le devoir. vous avez le devoir de balayer toute cette boue, de tout purifier. » Au contraire, à la fin de sa plaidoirie, le bâtonnier Gas, tourné vers les jurés, s'écrie « Si vous lui laissez la vie, vous ne lui ferez pas une faveur, sinon celle d'expier son crime sur la terre. »
Et il n'est pas condamné à mort. Il semble quand même que les jurés aient hésité, comme dit Lanzmann, à couper la parole de Dieu en deux.
Oui, alors il y a deux choses. D'abord, un, c'est que le procès va vite parce que Guy Desnoyers avoue tout. Il y a rien à discuter, n'est-ce pas? Mais voilà que le président lui dit « Vous auriez pu défroquer ». Il dit « Non, je ne pouvais pas, j'étais prêtre ».« Vous auriez pu vous suicider plutôt que la tuer ». ».« Non, je ne peux pas, c'est interdit, je suis prêtre ». Donc, c'est bien ce à quoi se confrontent les jurés, peut-être avec une culture un peu plus religieuse qu'aujourd'hui. Non pas que cette culture religieuse les conditionne, mais qu'ils comprennent mieux qu'il y a là un enjeu, à savoir que le seul juge, finalement, et ça sera la plaidoirie de l'avocat, que le seul vrai juge de Guy Desnoyers, c'est son Dieu. C'est l'abandonner à son Dieu dans cette solitude, dans cette vie où il va devoir méditer son crime absolu.
Après la publication du jour de la colère de Dieu, votre livre, vous avez eu des témoignages directs ou indirects.
Bien sûr, alors après.
Tel juré qui n'était pas franchement catholique vous a raconté qu'il y avait eu des pressions.
Son père. Un monsieur est venu me voir, beaucoup de gens sont venus me voir après ce livre, mais un monsieur est venu me voir pour me dire que son père, sur son lit d'agonie, lui avait confié avoir regretté toute sa vie d'avoir obéi au président du tribunal, qui était venu avec une lettre du président de la République d'alors, René Coty. On est à la veille du retour du général de Gaulle au pouvoir, n'est-ce pas? On est en 58. Et que Coty demandait au jury, effectivement, de ne pas prononcer la peine capitale pour éviter un embarras diplomatique certain avec le Saint-Siège, c'est-à-dire avec le Vatican.
Enfin, il a quand même sauvé une ville, curé du Ruf, parce que l'avocat général, après, au moment de la session suivante, a eu une crise cardiaque et s'est dit « je ne peux pas demander la mort pour le prévenu qui est devant », parce que après avoir empêché la mort du curé du Ruf, on ne peut pas mener à la guillotine un pauvre bougre. Juste une chose pour finir, Jean-François Colissimo, on se souvient pas, 1957, donc c'est à la même époque, un peu avant, le procès de Jacques Fesch. Voilà un garçon qui tue un gardien de la paix, qui se convertit en prison, qui devient un exemple d'élévation. Alors lui, il n'est pas prêtre, et il va être condamné à mort.
Et il va être décapité.
Et le cardinal Lustiger veut maintenant sa béatification et veut publier bientôt ses mémoires.
C'est le cardinal Lustiger qui va introduire effectivement cette demande en béatification. Jacques Fesch est un jeune homme un peu nigaud qui va accidentellement, lors d'un hold-up, tuer un agent de la paix. Pour cela, il va être décapité, mais dans sa prison, tout le temps où il attend, dans le couloir de ce qu'on appellerait aujourd'hui le couloir de la mort, voilà que non seulement qu'il se convertit, mais qu'il écrit véritablement le détail d'une vie mystique profonde, étonnante. Et effectivement, nous allons donner, là, le mois prochain, aux éditions, au CERF, ses mémoires, ses textes, la totalité de ses textes. Et oui. Et des années plus tard, ce cardinal Lustiger qui ne veut pas regarder Shoah, qui ne veut pas entendre parler du curé du Ruf, qui est dans cette relation certainement très forte avec Claude Lanzmann, voilà que c'est lui qui introduit la demande en béatification de Jacques Fesch qui suit son cours.
Mais il a eu la malchance de ne pas être prêtre au moment du procès. Merci à vous Jean-François Colissimo. On peut trouver, en le dégotant dans les brocantes, votre livre Le jour de la colère de Dieu. Je rappelle le titre du film de Philippe Ramos, Fou d'amour. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec Céline Loriou, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin et Franck Olivaro.